soir, toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Dans l'émission, nous sommes pleins d'émotions. Oui. Dans 100% foot, Patrick à mes côtés,
oui,
comme
bonjour.
À l'accoutumée. Bonjour Patrick.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, donc nous allons parler, nous le disons très régulièrement, une semaine chargée, hein, pour ne pas dire plus. On va parler de notre Ligue 1, de l'OM en particulier, et de Ligue des Champions, en l'occurrence de l'Olympique de Marseille, qui a disputé cette rencontre face à l'Atalanta Bergame au stade Vélodrome. Et évidemment, bon, on va commencer par Aubagne en national et les Olympiennes, les féminines de l'Olympique de Marseille. Pour Aubagne, bon, il y a eu évidemment une trêve internationale qui est toujours en cours. Hein, oui. En l'occurrence, l'équipe de France joue face à l'Ukraine demain, voilà, et les différents internationaux ont rejoint leurs équipes nationales respectives et disputeront également leurs matchs internationaux. Donc nous allons parler d'abord du national. Le dernier match qui s'est disputé, malheureusement, à Delattre, Aubagne a perdu à domicile face au Puy 4-1, un match évidemment qui était le terme insipide, je le répète régulièrement en ce qui concerne ce championnat, mais là Aubagne m'a un peu déçu sur ce match là voilà.
Donc, ils sont passés à côté,
ah ouais,
disons-le.
Ouais.
Ils sont passés complètement à côté, mm-hmm, parce que le Puy, c'est pas non plus.
Non, c'était pas un adversaire redoutable.
C'est pas non plus l'équipe, tu les vois, tu dis en Ligue 2, ils feront mal l'année prochaine. Non, non, c'est une équipe courageuse, bien organisée.
Ils en sont loin.
Mais voilà, ils sont loin d'être. D'ailleurs, ils sont pas dans les toutes premières places. Et non, c'est Aubagne qui est passé à côté. Oui, c'est.
Bon.
C'est les choses qui arrivent, ils sont passés à côté.
Effectivement.
Voilà.
Bon, au niveau du classement, ça ne change pas véritablement, je dirais, leur classement. Ils sont septième. Ils se situent donc, voilà, dans le milieu de tableau, bien ancré, avec 17 points. Voilà. Bon, on commence un petit peu au niveau des équipes de tête à faire la différence, mais enfin, Aubagne est bien à sa place. Oui. Voilà, tenir compte que la plupart des journées de championnat vont se disputer le 21 novembre. Vendredi, en l'occurrence, Aubagne ira jouer à Orléans. Voilà, leur prochaine journée de championnat.
C'est donc pas ce vendredi, mais c'est la semaine d'après.
C'est ça.
Parce que là, il y a la coupure due aux matchs internationaux.
Et oui, nous en sommes.
Voilà. Ce qui d'ailleurs est un peu. Peut être un peu surprenant parce que, que les équipes de 3e division, je n'en connais pas beaucoup, qui ont des internationaux, même des joueurs africains ou de. Il n'y en a quasiment pas. Mais donc, c'est un peu surprenant qu'on leur fasse faire la trêve à eux aussi. Bon, je pense que ça permet de travailler, de récupérer aussi, de se reposer.
Oui,
mais enfin, c'est pas comme les pros où tu. Tu as 10-15 gars qui sont partis, donc voilà, tu ne peux pas jouer un championnat. Mais bon, espérons que.
Il est vrai, il se trouve concerné finalement par une élite footballistique tout en restant dans l'ombre justement des championnats.
Et espérons qu'en Orléans, Aubagne retrouvera ce qu'il fait depuis le début, c'est-à-dire des matchs solides, costauds.
Oui.
Parce que là, bon, ils sont passés à côté, c'est des choses qui
arrivent. Ça leur permettra justement de remettre les bouchées doubles pour justement retrouver leurs performances qui ne sont pas si lointaines.
Voilà, parce que là, c'est typiquement le match, tu joues pas bien, tu es un peu à côté, tu en prends un, tu attaques pour essayer d'égaliser, tu te prends des contres, et voilà. Et tu termines prenant 3-0 à la maison.
Oui, c'est quand même assez étonnant, ayant vu évidemment les grandes largeurs de ce match. Malheureusement, c'est ainsi que ça s'est traduit, par une défaite assez lourde. Voilà, on va enchaîner sur le football féminin, nos Olympiennes. Pour la 9e journée, ils ont joué en même temps finalement qu'il y a. Et là, leur prochaine journée, ce sera vendredi 21 également, une date importante. L'OM recevra le Losque, non, pardon, le RC Lens, autant pour moi, OM oui. féminin contre Lens. Évidemment que là, il va falloir absolument prendre des points parce que le Ferry n'est pas dans la demeure, mais il commence un peu à poindre. Que oui. L'OM est dixième avec 5 points. Lens, là, véritablement, et Lanterne Rouge, 12e, donc dernière, avec 1 point. Il faudra profiter peut-être, non pas de cet écart de classement, mais l'écart
oui, il faut les mettre loin.
Il faut les concrétiser avec voilà. des points. Ouais.
Sinon, ça te laisse une petite marge. Si tu les bats, tu es à 8, elles sont à 1.
Ben ouais.
Ça fait 7 points, ça commence à faire une différence. Par contre, d'après le dernier match qu'elles ont joué, 0-0.
Ça me souvient, ouais, ouais.
Voilà, il va falloir être un peu plus efficace dans la surface oui. parce que tu avais dominé, tu aurais pu gagner, tu as quelques occasions. Mais
on se souvient de ce match, justement, où ça manquait de justesse technique
oui, voilà,
pour cadrer des frappes, etc.
La dernière passe, le dernier centre, des qualités de précision. Et parce que les Olympiennes avaient dominé le match, elles n'ont pas été beaucoup en danger, mais elles n'ont pas su mettre le petit but qui aurait fait que 1-0, ben, c'est
cela n'a pas suffi.
Voilà, un match nul 0-0, c'était un peu décevant.
Donc Corinne Diacre, donc, l'entraîneur de nos Marseillaises, a du pain sur la planche et profité de cette trêve internationale pour travailler avec ses joueuses et en espérant que cela porte ses fruits.
Oui, parce qu'ils ont pris, on a Bourdieu là, qui...
Oui.
Qui est une bonne buteuse, ouais, qui jouait au Paris
le
Football Club.
Le Paris Football Club.
Qui est une bonne joueuse. Et elle est partie parce qu'elle était la remplaçante de la titulaire Matteo, qui a été classée meilleure joueuse du championnat.
Oui.
Donc, c'est pas... Voilà, hein.
On peut comprendre, leur parcours en Ligue des Champions au niveau féminin,
Et puisque Paris FC... ils ont fait match nul 1-1 à Madrid contre le Real en Ligue des Champions féminines et se font rattraper à la 90
plus 8. Une attrémie,
vraiment, dernière minute.
Au bout du bout de ce match.
Voilà, et c'est une solide équipe. Donc c'est une bonne joueuse, mais là, elle n'a pas été en réussite, ce qui arrive. Et donc, on a laissé filer 2 points bêtement.
Oui, il va falloir concrétiser justement toutes ces occasions-là.
Quand tu joues contre tes concurrents directs pour le maintien, c'est les matchs qu'il faut gagner. Quoi. C'est sûr que ce n'est pas à Lyon que tu vas aller gagner. Hein.
Voilà.
Vu le niveau, c'est là.
Mais, oui, les équipes principales, dont le Paris Saint-Germain, le Paris Football Club, ainsi que Lyon, voire 2-3 autres équipes, où nous ne sommes pas encore au niveau, mais enfin, j'espère de tout cœur que Corinne Diacre va pouvoir justement bénéficier à cette équipe et leur permettre de progresser.
Redonner un peu de confiance et des trucs comme ça, c'est quand même une entraîneur extrêmement expérimentée. Et les filles, elles devraient être contentes d'avoir quelqu'un de cette expérience comme entraîneur. Donc, souhaitons-leur que ça se passe bien contre le Racing Club de Lens et qu'elles puissent ramener les 3 points, ça sera important.
Oh que oui.
Voilà.
Donc, vendredi 21, toujours au stade Turquan. Finalement, il accueille pas mal de matchs, ce stade Turquan. Sauf Marseille, bien évidemment. On a pu voir aussi la Youth League de l'Olympique de Marseille, les jeunes, en même temps justement que le match de Ligue des Champions face à Bergame. Voilà. Sous les yeux d'un nouvel arrivant, pour ne pas dire un transfuge italien qui a signé à l'Olympique de Marseille. Federico Balzaretti.
Ancien
qui a été recruté.
Ancien équipier de Benatia à la Roma.
Oui, à la Roma. Ouais.
Et dirigeant du foot italien, connu pour son réseau, pour son expérience.
Il avait un pied gauche, fut un temps.
Oui, fut un temps, mais c'est un dirigeant, il a fait ses début à la Roma, il a été dirigeant dans 2-3 clubs italiens.
Et là, sa place serait, je dirais, comme adjoint de Benatia, dans un rôle de la direction sportive.
Oui, pour les recrutements, pour négocier les contrats. Puis c'est quelqu'un qui a un œil, qui est connu en Italie pour avoir un œil. Et comme on dit, c'est-à-dire il repère, il a du réseau. Ça permet de renforcer la structure du club. Voilà.
C'est donc, un but, c'est un choix. Voilà. En tout cas, j'espère qu'on va s'y tenir. Évidemment que bon, il a jeté un œil justement sur nos jeunes cette dernière semaine. Et évidemment qu'on va pouvoir pérenniser, je l'espère de tout cœur, avec ces jeunes-là et des recrutements à venir dans les forces vives que l'Olympique de Marseille recrute. Voilà. Voilà. Donc, sur l'enchaînement, nous allons évidemment passer. Alors, commençons peut-être par le match. Nous sommes mercredi passé. Nous avons joué ce match de Ligue des Champions à domicile face à l'Atalanta Bergame sur un score qui laisse justement plus qu'un goût amer. Une défaite 1-0, évidemment, qui était peut-être providentielle pour Bergame, mais pas pour nous.
Oui. Mais disons que c'est un match qui laisse un goût très amer parce que je pense que nos auditeurs ont vu et ont lu ce qui s'était passé. C'est-à-dire alors, on n'a pas été bon. D'entrée, disons-le, on n'a pas été bon.
C'est évident.
Et Bergame aurait mené à la mi-temps, il n'y avait rien à dire parce qu'ils ont quand même un pénalty.
N'oublions pas la parade extraordinaire
de Jérôme
toujours présent.
Qui a sorti le ballon au ras du poteau. Oui. Qui a fait un très bel arrêt. Et par contre, on a pas eu beaucoup d'occasions, on n'a pas été très bon, on a manqué. Alors, est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est tactique? Je ne sais pas.
Peut-être que les deux se rejoignent quelque part.
Parce qu'on a on a manqué de jus, on a manqué de vitesse.
Ça, c'est le constat que l'on peut faire, en tout cas, à la fin de ce match. Bien avant, on attendait des réactions. Mais comment joue-t-on? On a déjoué totalement.
Complètement. On faisait la comparaison avec le match précédent de Ligue des Champions au Vélodrome contre l'Ajax.
Ah, pétard. C'est la référence pour l'instant.
Oui, 4-0. On n'avait pas arrêté avec des attaques, des changements d'aile, des actions risquées et tout. Et là, on a ronronné, voilà. Quelques actions individuelles de Greenwood, qui est effectivement le meilleur joueur.
Qui a essayé de surnager, mais actions individuelles. Après, le reste de l'équipe ne suivait pas son allant.
Voilà, et on a vu Aubameyang qu'on a trouvé émoussé. Bon.
Là, on peut parler,
Oui, 36 ans, ça se voit parfois.
Le terme est évidemment...
Parce qu'effectivement, on l'a trouvé un peu... Il a d'ailleurs une belle occasion en seconde mi-temps qui rate. Et voilà. Et
donc une des seules rares occasions, malheureusement, qu'il n'a su concrétiser.
Ouais. Voilà. Et donc, on a eu une équipe qui était en dedans.
Ouais.
Et on a été en difficulté. On a eu du mal à gérer les contres. Lookman, le Nigérian, qui est un grand joueur, puisque...
Ah oui.
Il était, je crois, 14e au Ballon d'Or l'année dernière, quand ils ont gagné l'Europa League. L'Atalanta, il y a 2 ans, il nous avait éliminés en demi-finale. Mm-hmm. Il avait mis 3 buts en finale.
On pouvait imaginer que ces soucis de transfert ou de non-transfert à venir, en ce qui le concernait, puissent l'impacter sur le jeu. Ça n'a pas été forcément le cas.
Il est bien revenu. Ouais. On rappelle qu'il avait mis 3 buts en finale contre Bayer Leverkusen. Mm-hmm. Après nous avoir fait très mal en demi-finale, il avait grandement contribué à l'élimination de l'équipe de l'OM. Mmh. Et il a voulu partir et son club l'a bloqué. Alors c'était le Bayern Munich qui était intéressé. Donc il avait des clubs allemands.
C'est compréhensible, bien entendu.
Il a eu l'Inter Milan aussi, donc le mec qui souhaitait y aller. Ils l'ont bloqué parce qu'ils n'avaient pas... classique, qui arrive mi-août pour remplacer un joueur de ce niveau, c'est extrêmement dur. Donc les clubs, ils ne te libèrent pas parce qu'ils ne savent pas par qui te remplacer.
Nous avons connu cette expérience dans d'autres circonstances sur un autre joueur majeur de notre équipe.
Et donc tu es en galère, tu ne laisses pas partir ton meilleur attaquant à 8 jours de la fin du mercato.
Alors ça semble tellement évident.
Voilà, tu n'as pas prévu de le remplacer. Surtout quand tu arrives à la fin où les prix se mettent à flamber. Parce que tu as les clubs anglais qui sortent le chéquier et ça devient extrêmement compliqué.
Difficile de rivaliser à ce moment-là.
L'Atalanta Bergame n'a pas les moyens de se payer un joueur du niveau de Lookman. à 60-70 millions d'euros comme ça en 24 heures.
Le conserver est évidemment, voilà. À l'instar, pardon, de leur entraîneur.
Qui était parti. Gasperini, Gianpiero Gasperini.
C'est ça, Gasperini, qui a été remplacé, mais son transfert n'a pas duré si longtemps que cela, par Ivan Djuric, le Croate.
Il s'est fait virer ce week-end.
S'est fait virer ce week-end.
Avant-hier. Hier d'ailleurs.
Ouais, je crois que c'était. Suite, après, ils ont quelques soucis dans le Scudetto.
Ouais.
C'était suite à la défaite 3-0 face à Sassuolo. Mais bon. Club qui a entraîné Roberto.
Le licenciement de l'entraîneur. Sassuolo qui était l'ancien club de Zerbi.
Qui a entraîné son licenciement.
Mais l'histoire de Lookman, je pense que quand tu as un joueur, parce que le joueur est allé au bras de fer, a refusé de s'entraîner, il refusait de jouer parce qu'il voulait forcer son départ, c'est jamais très malin de refuser. Et parce que là, il a eu du mal à revenir. Il ne s'est pas entraîné, il n'a pas fait la préparation.
Effectivement, donc j'étais un peu étonné même de le voir.
Il est revenu
sur ce match-là.
Il aurait intégré il y a 3 semaines ou 4 semaines pour essayer de le relancer. Mm-hmm. Et donc, le mec, il est physiquement pas à 100%. Et puis, peut-être que dans la tête, il est un peu, c'est un peu tendu. Il se peut aussi que ses équipiers pas apprécient.
Ce qui semble compréhensible.
Voilà, dans un groupe, tu en as un qui refuse de... Tu as ceux qui le soutiennent et qui disent « je le comprends ». Puis, il y en a d'autres qui n'aiment pas.
Alors, au-delà tout à fait de ce cas personnel qui impacte toute une équipe, en ce qui nous concerne, ce match-là, je pense que... l'Atalanta Bergame était plus que prenable, que si on avait peut-être, il aurait peut-être fallu jouer notre jeu, jouer au football tout simplement, on a déjoué totalement, mais je pense qu'il y avait matière à faire beaucoup mieux malgré les événements de ce match.
Après, tactiquement, ils nous ont bien pris parce que au milieu de terrain, on joue donc en 4-2-3-1,
il est vrai,
avec un numéro 10 qui était Angel Gomez.
On peut en parler nominativement.
Il n'a pas été extraordinaire sur ce match-là. Et par contre, eux, ils jouaient avec 3 plus un des deux ailiers qui systématiquement revenait
au
milieu.
Donc, la bataille du milieu, nous l'avons perdu du début jusqu'à la fin.
Voilà, tu as 4 contre 2, tu t'es fait bouffer.
Totalement.
Et du coup, tu n'as pas de ballon, tu alimentes mal ta ligne d'attaque. Mmh. Tu mets ta défense sous
avec
pression.
Avec un avant-centre qui attend de la profondeur, la chose était mal cousue.
Et eux, ils jouent avec une défense à 3.
Ouais.
Et 3 costauds, 3 expérimentés,
en effet,
internationaux, albanais, je ne sais plus quel... un italien, enfin, c'est du solide.
Non, les deux centraux qui sont énormissimes, non pas techniquement, mais sur l'ensemble.
Physiquement, qui vont au combat. Et donc, tu as été, quand Roberto De Zerbi a remplacé Aubameyang, qui était fatigué, enfin, a fait rentrer Robinho Vaz pour mettre un peu le feu. Robinho Vaz, c'est un bon joueur, intéressant, c'est un jeune d'avenir, mais 18 ans, face à des vieux requins de la Serie A italienne. Il a eu énormément de mal.
Son entrée était plus que compliquée.
Voilà, très compliqué. Il a pris des coups, ils font des fautes, ils savent te tenir, te coincer, Et faire les petites fautes qui ne sont pas sifflées, mais qui fait que le mec, il peut pas jouer, et c'est quand même un niveau autre que la Ligue 1.
Il est vrai qu'au-delà de l'équipe italienne, il s'agit des clubs de ce niveau-là qui disputent la Ligue des Champions sur l'ensemble. Il est évident que pour avoir ce niveau-là, pour Vaz, nous y croyons, mais c'est encore un peu prématuré.
Il est un peu jeune, il manque de métier, de vice. Et donc,
ça viendra.
Voilà, c'est un joueur qui est intéressant. Et on a été mangé au milieu. Ils nous ont pris, ils ont eu des contres. Après, un élément qui a joué, à mon avis, sans chercher d'excuses, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas été bons. Mais il te manquait beaucoup de monde quand tu regardais le banc.
Au-delà du manque cruel de joueurs, je crois 8 ou 9 joueurs qui étaient sur le banc, cas de le dire, sur le banc de touche.
Si tu comptes Emerson qui était suspendu, tu avais 9 absents.
C'est vrai que la suspension d'Emerson, évidemment, n'a pas été un cadeau pour nous.
Voilà, Donc, il a fait jouer Ulysse Garcia parce qu'il n'y voilà. a que lui sur le côté
donc,
gauche.
Finalement, ce système avec Ulysse Garcia, justement, et deux joueurs sur les côtés qui doivent redevenir défendre. Ouais. Mais évidemment que Ulysse Garcia n'est pas non plus au niveau.
Voilà, et en plus, il manque de rythme parce qu'il a voilà. peu joué.
C'est
donc,
relatif.
Voilà, c'est très compliqué. Mm-hmm. Il avait joué à Auxerre, où il s'était fait expulser d'ailleurs. Mais il avait joué. Ouais, ouais. Il avait joué 70 minutes, un mm-hmm. truc comme ça. Donc, il tire un peu la langue parce qu'il manque de compétition et de rythme. Et donc, on était en difficulté. On a été plus dangereux à droite avec la doublette Murillo-Greenwood.
Ah oui.
Où là, on a été efficace.
On a une entente voilà. sur ce côté, évidemment.
Mais la différence s'est faite parce que quand tu regardes le but qu'on prend dans les arrêts à la 90e, les mecs qui ont marqué le passeur, le buteur, sont des joueurs qui sont rentrés à la 75e, 80 minutes.
Au-delà de ça, il y a eu une non-réaction de notre part oui. après un arrêt de jeu qui, justement, a impacté notre équipe.
Oui, il y a eu la fameuse main de Ederson dans la surface qui est là-dessus. Discutable. Et au lieu de faire ce qu'il faut faire quand tu es en Ligue des Champions, c'est-à-dire tu râleras après, cours d'abord et coupe le mec... l'international serbe Samardžić qui venait de rentrer à la 75e.
On l'a laissé mener le contre de fort belle manière.
Qui est un très bon joueur. C'est un beau joueur qu'ils ont acheté cette année, là, qu'ils ont payé une 35 millions, un truc, 40 millions.
Mais si tu
ça.
Coupes l'action au départ, voilà. On n'en arrive pas là.
Voilà.
À
et
ce but,
quand tu regardes d'ailleurs l'action. Quand tu revisionnes l'action, le joueur qui vient sur lui pour le couper, c'est O'Reilly.
C'est O'Reilly, ouais.
Voilà. Mais O'Reilly, il a pris un carton jaune un quart d'heure avant pour avoir coupé une contre-attaque en tirant le maillot du mec de l'Atalante.
Mais là, je ne pense pas que dans ces circonstances-là, tu aies cette pensée de te retenir.
Voilà, c'est possible. Le mec sait qu'il a un carton, il fait attention. Parce que là, il était pris de vitesse. Il faut qu'il fasse une croche-pied, quoi. Donc, il faut qu'il le découpe.
On est sur une action majeure où on doit sanctionner l'équipe adverse d'un tir au but qui n'a pas été sifflé. Derrière l'enchaînement se fait par l'équipe adverse qui, une interception ou une tacle à faire de la part d'O'Reilly.
Voilà, il aurait dû le faire peut-être, mais il est au milieu de terrain. Il a peut-être pensé que l'autre, il n'irait pas au bout. Il a peut-être pensé que... Parce que quand tu regardes le but de Samardžić, c'est une frappe pleine lucarne, imparable.
Tant qu'à faire.
Tu peux dire, il va prendre la barre, il va la mettre au-dessus, il va rater le tir. Il y a une de mes centraux qui va arriver à le contrer. Mm-hmm. Sauf que le mec, il arrive, il repique et il rentre vers l'intérieur. Et de l'extérieur des 18 mètres, il met une frappe enroulée en pleine lucarne, imparable. Et ça, c'est magnifiquement joué, mais c'est un joueur qui vient de rentrer. C'est-à-dire que le mec, il a du jus.
Absolument. Voilà. Et en même temps, il a justement l'esprit d'une justesse de jeu
c'est
une action formidable.
C'est un international serbe, c'est un bon joueur, c'est très fort techniquement. Voilà. Et toi,
au-delà d'avoir fait un non-match, d'être coupable de cela, on n'a pas eu de réussite en plus. On l'a pas cherché non plus. Hein.
Alors, ce qui ralent pour être sans être chauvin bêtement, c'est que la faute de Mendy Ederson, l'explication des arbitres, c'est il rate le contrôle et il s'emboîte le ballon sur la main, ce qui au demeurant est vrai. Sauf que
il ne faut pas oublier qu'il y avait derrière lui
Aubameyang qui est là, qui se prépare à frapper.
Donc on coupe une action de
but. Voilà, tu casses une action. Et on a pris un péno à Madrid sur le tacle de Medina.
Sur une action similaire avec...
Encore moins que ça.
Ouais,
parce que
moins flagrante.
C'est en taclant qu'avec le coude, il touche involontairement le ballon. Mais tout il est au sol. Alors que l'autre, il est droit, il est debout, il intercepte un centre... Et à part que c'était un centre assez puissant, et lui, il a voulu le contrôler et il s'est mis le ballon sur la main.
C'est le fait majeur et marquant de ce match qui nous a totalement déstabilisés.
Et ce qui est problématique...
Sur le gong.
Et je pense que les dirigeants l'ont signalé à l'UEFA, c'est qu'on a pris un péno dans les mêmes circonstances à Madrid qui lui a été sifflé. Voilà.
Et donc, là, ça n'a pas fait jurisprudence, justement, malheureusement.
Par contre, l'erreur, quand tu joues à ce niveau-là, en équipe nationale ou en Ligue des Champions, c'est que tant que l'arbitre n'a pas sifflé,
eh ben, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas.
Et c'est vrai qu'il y a 2-3 joueurs qui sont arrêtés. Hein. Alors, Aubameyang, il était là, donc il n'allait pas courir pour rattraper à la 90e.
Oui, oui, oui.
Mais il était là, il a couru vers l'arbitre pour signaler la main. Et ce qui est un peu choquant et qui a énervé beaucoup de supporters, c'est que l'arbitre n'est même pas allé voir les images à la vidéo.
Ouais, ça, c'est quand même fou. Parce que là, c'est plus qu'un étonnement. C'est incompréhensible, cette attitude.
Ce qui n'est pas normal, c'est que...
Y a-t-il un communiqué de la VAR en lui expliquant que ce n'était pas nécessaire d'aller voir la VAR ? Ils ont pris leur décision.
Il n'y a pas d'explication particulière. Comme on sait que la VAR, c'est une erreur manifeste, et que le règlement dit que si le ballon touche une partie du corps et rebombe sur le bras, il n'y a pas forcément pénalty.
On en revient à l'interprétation humaine.
Voilà, l'interprétation. On a eu le même cas ce week-end avec les matchs de Lyon-Paris,
face
où
à
il y a
Paris,
des situations scabreuses où on te dit, voilà, alors nous, on s'en fout parce qu'on n'est ni Lyon ni Paris.
Oui.
Mais enfin, moi, je comprends les Lyonnais qui gueulent parce que... Il y a quand même des situations très douteuses. Et là, on a une interprétation. Le problème étant que sur le contre, c'est-à-dire que le ballon, il est donc détourné de la main par Ederson et il est sorti par un joueur de l'Atalante qui lance au milieu de terrain, qui renvoie sur l'aile droite à eux, notre aile gauche à nous. Et là, le joueur Samardžić, il fait 1-2, mais il part balle au pied et il va au but. Et tu prends le but. Si l'arbitre avait arrêté, ne serait-ce que pour regarder les images, ben au moins, il n'y a pas le but.
Alors, à ce moment-là, évidemment, qu'on peut se sentir coupable du fait qu'on n'ait pas pu arrêter l'action. On en revient aux joueurs qui étaient concernés, qui pouvaient être face au contre.
Et c'est, après, c'est compliqué. Après, je le redis, si on avait fait un bon match, on aurait pu gagner.
Après, mais je reviens tout à fait à cela, parce qu'on a été mauvais, mais bon, malheureusement, c'est facile de dire, comme beaucoup, que finalement, on méritait de perdre.
Mais après les matchs, ça se joue tellement sur des bricoles que tu es à la 90e, tu as un centre détourné de la main par un défenseur adverse. Si ça fait pénalty, Greenwood tire bien les pénalties, ça peut faire 1-0.
Effectivement.
L'arbitre siffle pas, sur le contre, tu prends un but, et d'une victoire 1-0 que tu aurais pu obtenir, c'est une défaite.
Ça pouvait
1-0.
Nous relancer, justement, dans ce classement de Ligue des Champions.
Ça fait, tu peux te retrouver éliminé en Ligue des Champions, parce qu'il te manque un point ou deux, le point ou deux, il est là. C'est sûr que c'est ralent.
Alors, autant on peut parler du match face au Sporting, où là, nous méritions, évidemment, on peut le dire. Et on va le souligner, la victoire, sans nul doute. Et là, par contre, malheureusement, un coup du sort...
Contre le Sporting, tu méritais la victoire en première mi-temps, tu prends un rouge, entre guillemets, logique, parce que la simulation est liée d'Emerson, mais stupide.
Oui.
Et du coup, en seconde mi-temps, tu recules. À 10 contre 11 en Ligue des Champions, c'est dur, c'est pas le championnat de France.
Oui, oui.
Ligue des Champions, c'est un niveau... ou à 11 contre 10, c'est compliqué, et tu perds à plus avec un dégagement contré qui fait but pour un mec qui n'est pas en jeu de 2 cm, et un tir contré par Pavard qui lobe, roulit le gardien, sur lequel il ne peut rien faire, et tu prends 2 buts en bois, et tu perds alors qu'en première mi-temps, tu les bouffes. Mais ça, c'est ta faute. Tu n'avais qu'à pas te faire expulser, tu n'avais qu'à mettre le cheveu.
Évidemment, en relativisant et
contre l'Atalante, on peut dire que l'Atalante, parce qu'ils ont marqué un but, l'Atalante qui a été refusé, j'ai toujours pas compris pourquoi.
Oui, il est vrai.
C'est pas un hors-jeu, puisque le mec, il a donné un coup franc à 30 mètres. Donc, je pense que c'est que sur l'interception, il y a eu une main purement.
Oui, c'est ça. Il y a eu, apparemment, c'est cela. Ouais.
Ça serait contré du bras.
C'est
donc,
pour ça que le but a été refusé.
Le but a été refusé un peu, Olé, olé. Le péno, le mec, il le rate. Enfin, Rouli l'arrête, mais le péno, il y est.
Est-ce un élément de réponse, peut-être, concernant la fin du match? Pourquoi n'a-t-il pas sifflé le penalty pour nous ?
Peut-être que dans la tête de l'arbitre, alors inconsciemment, hein, c'est pas volontaire, il n'a pas été acheté.
C'est évident.
Tu n'as pas le Real Madrid en face.
Mais c'est, inconsciemment, c'est la, voilà. Ça a joué sur sa non-décision.
C'est pas un grand club qui est riche. C'est plutôt que tu te dis, il ne mérite pas, l'action est litigieuse, mais... N'empêche que nous, à Madrid, le pénalty, on l'a pris pour moins que ça.
Il a tout de même laissé un temps additionnel supplémentaire. D'ailleurs, c'est la VAR qui l'a arrêté sur un corner que nous devions frapper.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on a obtenu un corner, il n'a même pas laissé tirer ce qui a
valu. Il s'est tenu l'oreille et il s'est tenu. Justement, la VAR lui aurait indiqué justement d'arrêter le match. On avait dépassé le temps additionnel.
Ils avaient dépassé le temps additionnel. Mais enfin, en général, quand il y a un corner que tu montres le poteau de corner. Tu le laisses tirer.
Ben, me semble-t-il.
Quitte à siffler 5 secondes après, s'il y a un dégagement. Mais là, il y a eu. Bon, donc, il y a eu.
C'est un scénario catastrophe, ce match.
L'arbitre a été remis en cause dans ce. Comment dirais-je ?
Ben oui.
Dans sa dignité, avec la finesse que l'on connaît du stade. Mais c'était très chaud.
Je sais que tu étais en réserve, que tu n'as pas participé avec l'allégresse personnelle. L'allégresse n'est pas le terme bien repris.
Oui, l'enthousiasme général. C'est vrai que c'est un peu délicat parce que bon, même si tu n'en penses pas moins, tu ne le dis pas.
Mais
c'est vrai que c'était un match qui a laissé beaucoup de regrets parce qu'on aurait pris 3 points, on était... pas qualifié en Ligue des Champions, mais on était pas loin. Quoi, voilà.
Pérenniser un espoir, et évidemment que là,
Et
ça commence à être compromis pour les espoirs et les attentes.
Oui, parce que n'oublions pas qu'on reçoit deux fois, et on reçoit Newcastle, club anglais, qui n'est pas commode, et on reçoit Liverpool.
Bah ouais. Juste après la 13e journée où nous irons jouer à Nice le vendredi 21, là aussi, l'OM Newcastle, nous les recevons mardi 25 novembre.
Voilà, c'est-à-dire on reçoit, c'est pas un cadeau.
Oh,
et fin janvier, on reçoit Liverpool.
Alors, une question, peut-on justement penser, imaginer, bien évidemment, mais tout est possible.
Après, moi, je pense que si on est au complet... Parce que là, contre Bergame, il te manque Balerdi, il te manque Ouéa, il te manque Mégina, il te manque Gouiri, il te manque Ahmed Traoré Junior, il te manque Nadir.
Oh, pétard, oui.
Kondogbia, c'est normal. Et Emerson qui est suspendu.
Surtout, ça était préjudiciable.
Et donc, il te manque 8-9 gars. C'est quand même compliqué. Et donc,
on va retrouver
si tu es au complet,
si
tu es en forme, si tu es physiquement bien, Liverpool, c'est jouable. Voilà. Et on va après Newcastle, vers le 15 décembre.
Oui.
La date, c'est...
Oui, effectivement.
C'est le 9 décembre, on va à l'Union Saint-Gilloise. C'est la banlieue de Bruxelles, c'est un club compliqué, mais enfin.
Ah ben oui, on les a vus à l'œuvre.
C'est pas mauvais, mais enfin. Voilà, et on termine après Liverpool en juin à Bruges. Et Bruges, c'est costaud, ça. Ils ont mis 4-1 à Monaco. Ils ont fait 3-3 avec le Barça mercredi dernier. Donc c'est une équipe. C'est va pas être facile du tout.
Penses-tu que nous avons encore une chance de tirer notre épingle du jeu
Disons que le match contre Newcastle sera...
Une place qualificative
pour la suite. Si tu ne gagnes pas contre Newcastle, c'est mort.
Ah là, c'est cuit.
Voilà, c'est mort, mais c'est jouable.
C'est vrai que Liverpool arrivant après, on peut imaginer que...
Voilà. L'idéal serait de gagner à Saint-Gilles et de battre Newcastle, ça fait 6 points. Après Liverpool, ça voudrait dire qu'un match nul peut te suffire.
Une cerise sur le gâteau suffirait à ce moment-là.
Et un match nul à Bruges pourrait te suffire pour te qualifier.
Également,
Donc c'est jouable. Si tu venais à avoir encore une déception contre Newcastle, là je ne vois pas comment on se qualifierait.
Parce que... Nous allons retrouver des forces vives dans notre équipe. On va essayer peut-être par Medina, évidemment.
Normalement, tu as Kondogbia, Ouéa et Balerdi. Alors, ils n'ont pas
Balerdi,
joué contre Brest parce qu'ils revenaient de blessure, ils étaient incertains. on les a reposés, il y a la trêve là, internationale.
Ça va leur faire du bien.
Ça va leur faire du bien. Aucun des...
Bah, ils ne sont pas partis avec leur groupe.
Ils ne sont pas partis avec leur sélection. Voilà. Voilà. Balerdi, l'Argentine, OEA, les États-Unis et donc Ahmed Traoré, la Côte d'Ivoire, oui. Guiri, l'Algérie.
Bon, Guiri, bon, évidemment.
Voilà. Et Medina, l'Argentine également. Ouais. Medina devrait revenir fin novembre, peut-être un peu juste pour Newcastle. Ouais. Parce qu'après, le problème...
Nice et Newcastle serait un peu trop prématuré
voilà,
pour lui.
Mais normalement, Ouéa et Balerdi devraient être... Et Nadir, qui avait se rappelle qu'il avait fait un malaise et que donc, bon, par sécurité, tu ne l'as pas fait rejouer.
Oui, mais je pense qu'il s'est remis de ses émotions
Même contre Brest, il n'a pas joué. Ça fera 4 semaines, ça devrait aller.
Ça a permis à notre milieu, finalement, revenir sur des bases sereines.
Après, le problème que tu as, et je reviens au match de Bergame, quand tu dois faire l'Atalante, je disais Samardzic, et ils ont fait rentrer également... un joueur Yen qui s'appelle qui est international albanais
il me semble bien
ils sont rentrés parce que leur stopper avait pris un jaune, donc il était limite, il a remplacé par un autre international.
C'est légitime de faire ce choix là
c'est du solide. Ils ont fait rentrer 5 joueurs, ils ont fait rentrer 4 internationaux étrangers. Voilà, et le mec qui marque, c'est un international serbe, donc c'est pas non plus c'est pas un truc de chèvre, quoi. Et toi, tu as fait rentrer... tu as fait rentrer Robinho Vasque.
Aubameyang qui était finalement un peu cuit, plus que cela, même avant le match.
Voilà, tu as fait rentrer des joueurs qui... Tu as fait rentrer Mmadi, donc c'était la première opération. La première présence en équipe première, c'est son premier match.
Et pas n'importe quel match.
Voilà,
quoi.
Tu le fais rentrer
en Ligue des Champions.
En Ligue des Champions, en faisant sortir ton couloir gauche, Luis Garcia, rentrer.
Évidemment.
Tu fais rentrer Robinho Vaz, mais c'est des jeunes.
Oui, pour renforcer ces secteurs.
Tu n'as pas fait rentrer les internationaux. Les mecs que tu avais sur le banc, ils n'y étaient pas. Quoi. Ils sont blessés. Et ça, c'est un vrai problème. Qui fait que, des fois, tu as des joueurs de banc, ça a marché pour l'Atalante, mais ça marche régulièrement. Tes joueurs de banc, Paris, Saint-Germain, le fait régulièrement. Tu fais rentrer les mecs qui sont du costaud, tu fais rentrer des internationaux.
Oui, mais malgré les quelques absences qu'ils ont subies,
ils ont quand même à faire des résultats. Ah. Et même si le Bayern les a tapés, mais le Bayern, c'est costaud.
C'est le Bayern.
Voilà. Il te manque 4-5 mecs contre le Bayern, c'est trop costaud.
Cela dit,
et toi, sur le banc, il faisait peur, parce que il y avait même... deux jeunes en défense, les deux défenseurs remplaçants, défenseurs de métier. Il y a Ouro et puis il y a un garçon qui s'appelle Clément. Tout le monde regardait sur le téléphone la composition d'équipe. Tout le monde la même question. Qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? C'est des mecs qui ont zéro match en Ligue 1.
Oui.
Qui sont venus s'entraîner quelques fois avec le groupe, mais qui a pris parce
que... Comme tu disais tantôt, quand on met un jeune dans un effectif avec des titulaires, il va flamber très probablement, mais quand tu en mets 4 ou 5, c'est un peu plus compliqué.
Et oui, bien sûr. Et donc, tu te retrouves quand même avec une défense, avec Pavard, Egan Riley. Egan Riley, c'est un remplaçant. Donc c'était compliqué. Et tombant pour faire de la rotation, faire entrer du sang frais, à part Robinho Vaz.
Ça manquait justement, même temps de profondeur, c'est le cas de le dire. Oui. Mais au niveau de, justement, de Riley, etc., de la plupart des joueurs qui étaient, j'ai senti, empruntés. Ils n'étaient pas à leur niveau. J'en ai pas vu un, mis à part Rouli, qui était à son niveau.
Oui, Rouli a été excellent, il était à son niveau. Après...
On peut l'expliquer de plusieurs manières.
Oui, c'est-à-dire que tu avais la journée de championnat avec Angers en milieu de semaine, donc tu as joué le dimanche, le samedi, le mercredi, la journée de championnat en milieu de semaine. Le samedi, tu rejoues le mercredi en Ligue des Champions.
Mais à ce moment-là, il est vrai que là, le fait... d'avoir joué mercredi et de rejouer samedi, non pas dimanche. On parle là de cette journée de championnat, la dernière dont nous allons parler, la deuxième journée.
Contre Brest, voilà. Ouais. C'est-à-dire que tu as joué 5 matchs en 17 jours.
Cette accumulation de matchs avec un manque cruel de titulaires ou de joueurs, justement.
Oui, ou de remplaçants.
Ou de remplaçants, manque de joueurs, tout simplement.
Qui te permettent de tourner. Ne serait-ce que quand tu fais sortir à une quart d'heure, 20 minutes de la fin, tu fais rentrer un remplaçant, un Bacola, un Nadir, qui sont quand même des bons joueurs de ballon. Hein. C'est le mec qui remplace, hein, il travaille, et toi, tu te reposes. Et toi, tu as été obligé de laisser et de ne pas faire retourner ce que je disais tout à l'heure en parlant
Nous étions dans l'incapacité de le faire, le faute
contre,
de banc.
Le contre de la 90e minute, où tu prends le but. Hormis le fait que les mecs, ils gueulaient sur la main à la surface.
Ouais, ils étaient encore en train de discuter de cela. Ouais.
Physiquement, tu as des joueurs qui ont 90 minutes dans les jambes, alors que l'autre, ils viennent de rentrer.
Et qui les enchaînent. Ouais.
Voilà. Et bien, tu ne le rattrapes pas.
Non.
Tu n'arrives même pas à faire une faute du bras ou ce qu'avait fait O'Reilly un quart d'heure avant, comme je le disais.
Ouais, il avait tiré le maillot,
il avait tiré le maillot,
temps,
il avait arrêté le contre, qui était dangereux. Et voilà, et donc tu es coincé, et ça, ben, ça joue certainement, même si ça n'empêche qu'en début de match, où là, tu n'es pas fatigué, tu n'as pas les matchs dans les jambes.
Non, mais on n'est pas entré dans le match.
Oui, tu es mal entré dans le match, tu n'as pas été bon. Et moi, je pense que la raison principale, c'est que tu t'es fait manger au milieu.
Ben, c'est une évidence, parce qu'ils étaient en surnombre déjà.
Oui. Et puis des joueurs de ballon, des bons joueurs internationaux. De Roon, l'international hollandais, c'est un très bon joueur.
Très bonne manière de ballon, pas
voilà, cool. Et donc, en fait, ils t'ont fait courir, quoi.
Et un positionnement qui...
Voilà, avec Ederson, le Brésilien, celui qui fait la main dans la surface, mais qui est Brésilien, international, et qui nous avait fait particulièrement mal il y a 2 ans.
On s'en souvient,
demi-finale de l'Europa League, qui est un très très bon joueur, et les mecs ils se passaient le ballon, ils décalaient, ils créaient des brèches, et toi tu courais derrière.
Que ce soit nous justement, avec cette maîtrise de faire courir l'adversaire, on a justement été victime de cela.
Voilà, et c'est pour faire la liaison avec le match de Brest, c'est ce qu'on a fait à Brest.
Voilà, justement, on va pouvoir parler de cette dernière journée de championnat, donc la 12e, où très rapidement, le Paris FC a été battu par Rennes 1-0. On ne le garde pas pour la fin, puisqu'on l'a dit, on le fait. L'OM en a planté 3 à Brest. Les Pirates n'étaient pas présents sur ce match-là. Oui, quelques supporters, mais les joueurs, non. Le Havre a fait match nul 1-1 face à Nantes. Monaco, voilà, quel match, quel score et quel étonnement. A perdu 1-4 face à Lens et qui se repositionne très très bien, malheureusement, qui nous talonne et qui est très proche de nous. Heureusement qu'on a un goal average, parlons un peu anglais, qui nous permet de faire la différence.
Juste un petit mot, Franck, je te coupe.
Je t'en prie.
Monaco, ils ont un rouge.
Oui.
Extrêmement sévère, mais alors sévère chez sévère.
Ah oui.
Pour Balogun, leur avant-centre. Et ils jouent toute une partie du match à 10. Ils sont menés, ils essaient d'attaquer. Et évidemment, ils se prennent des contres. Et ils se prennent en contre des buts. Mais Orlan, ça fait un très bon match. Mais Monaco, la décision du rouge pour Balogun, elle est sévère.
Je me souviens de cette action de jeu, cette décision qui finalement, Lens n'a pas été myope ensuite pour jouer tous ses contres.
Voilà, ils ont attaqué à tout va. Et on sait que Lens, ils jouent en défense à 3
sur
avec
les contres,
deux pistons. Leurs 3 centraux, on les avait joués, nous, c'est costaud, c'est des armoires à glace, c'est compliqué. Monaco n'a pas été très bon, disons-le.
En même temps, les matchs de Ligue des Champions impactent
toutes les équipes. Ça explique une grande partie de 4-1, parce qu'il n'y a pas un tel écart.
Non.
À Louis II, Monaco, chez lui, se prend 4-1 par Lens. Le carton rouge a été déterminant.
Oui.
Voilà. Mais je, voilà, on reprend le truc, mais c'était non, juste...
On peut le souligner, ouais. Voilà, Lorient qui a fait match nul face à Toulouse, un partout. Angers a battu Auxerre, ouais, je dis pas de bêtises.
2-0,
ouais. Ouais, c'est ça. Et Metz, voilà, bon, ça fait toujours du bien, a battu Nice 2-1.
Oui.
Et je parle pour les Messins, bien entendu, oui. Hein, pas que pour nous.
Oui.
Strasbourg a... étrier, on peut le dire, ouais, même 2-0, Lille, et ouais. Bon, ben, ils sont toujours dans les bons résultats, malgré les différents matchs de Ligue des Champions, enfin, pas de Champions, mais de Coupe d'Europe disputés par Lille et par Strasbourg. Et pour terminer, comme tu le disais, Lyon a perdu à domicile 2-3 face au PSG sur évidemment au niveau arbitral, il y a
voilà.
Eu quelques doutes
à
avoir.
Quelques actions très litigieuses.
Voilà, on peut le dire ainsi. Ouais.
Et moi, ce qui me tue, c'est que je comprends pas que les arbitres soient bêtes au point, par exemple, de pas aller voir la vidéo.
Et voilà, là, c'est très très dommageable.
Ne serait-ce que pour calmer le jeu, tu vas voir. Tu es là, tu hésites, bon, après tu peux expliquer, il n'y a pas... Y a
Est-ce
pas
que
ci,
tu penses
pas
peut-être, Patrick, qu'ils sont finalement instrumentalisés, le sont probablement par la VAR, ne serait-ce que pour prendre des décisions, mais pour aller voir les images. Je ne comprends pas qu'on ne les invite pas à aller voir les images.
Ce qui est problématique, à mon avis, hein, alors c'est perso, hein, c'est que les arbitres sont concurrents, puisque chaque fin de saison, ils sont notés.
C'est
il y a des
évident.
Mecs qui sont rétrogradés en Ligue
oui,
2,
oui, oui.
Où l'indemnité de match, elle est trois fois moins qu'en Ligue 1.
Oui, oui, oui.
Donc, il y a une question de pognon. Et je ne parle même pas de devenir arbitre international, où là...
Évidemment qu'il y a une concurrence
voilà.
Qui est...
Donc, il se peut, des fois, il se dit que les arbitres VAR, des fois, ils ne font pas des cadeaux aux copains qui sont sur le terrain. Voilà, parce que c'est pas eux dont on parle, c'est de celui
je
qui est
sur le terrain. Je suis bien d'accord avec cela.
Parce que moi, j'ai vu le match. Alors, M. Bastier, je le défends pas plus que ça. Je le connais pas, évidemment.
Oui, même.
Et fait, quand il a arbitré l'OM, il ne nous a pas toujours fait des
voilà
cadeaux.
Voilà ce que j'allais dire.
Mais, de toute façon, il a pas à me faire des cadeaux.
Non,
mais
non.
Il a pas toujours été extraordinaire.
Forcément, mais très juste dans ses décisions.
Quand tu vois les actions litigieuses,
ouais.
J'aurais pas aimé être à sa place.
Mais autant aller les
voilà.
Voir de visu.
Oui, oui, oui.
Pas...
Voilà, donc, c'est ce que je te disais,
c'est
Franck.
Ça, ouais.
Je comprends pas qu'ils aillent pas voir. Et c'est vrai que j'écoutais, donc c'était hier, je crois, un débat sur l'équipe télé, où c'était l'ancien joueur Benoît Trémoulinas qui disait « il faut sonoriser les arbitres parce que le mec, comme au rugby, il explique ».
Il y a eu des essais, mais
et
bon.
Et voilà, par exemple,
pas
sur
forcément concluant.
Les Lyonnais demandent un penalty sur Tagliafico pour une faute du Coréen, la Kang In-li.
Ouais.
Moi, j'ai revu les images, donc, et je suis allé voir sur Internet, mais pour te dire à quel point je pousse la conscience professionnelle.
Tout à ton honneur.
Mais en fait, Tagliafico, il tire,
oui.
Et l'autre, il le charge, il essaie de le gêner, et il fait une faute après le tir.
Oui, alors c'est après coup.
Donc, alors ça se joue au dixième de seconde, hein.
Ouais, mais, là
mais
aussi...
le ballon, il est parti, il frappe le poteau d'ailleurs. Le goal, il est battu, comme d'habitude, et il frappe le poteau. Et donc, est-ce que tu mets un péno, sachant que la faute, elle est après la frappe?
Et voilà, ça va très très vite, ça se joue une fraction de seconde.
Donc par contre, au ralenti, tu le vois assez clairement.
Ouais.
Moi, je pense
mais
que
le ralenti peut fausser justement la simultanéité de l'action.
Ça peut. Mais là, tu vas le voir, mais tu le dis, tu dis la faute est commise après le tir. Donc le mec, il a tiré, il a joué normalement. Donc, il n'y a pas infraction, machin.
Ouais, ouais.
Ça va siffler parce que le public ne sont pas contents.
C'est fondamental ce que tu dis,
voilà.
C'est très important.
Et tu le vois en rugby quand le mec
voilà.
Il explique.
Je voulais venir à cela.
Voilà. Ouais. Et toi, à la télé, tu as vu. Alors, le spectateur, il voit pas. Enfin, en rugby, des fois, il montre les images à l'écran géant. Hein. Moi, j'ai vu des matchs de rugby au Vélodrome. On te montre l'action
oui, oui, oui.
À l'écran. Donc, tu vois, genre le mec, il a mis le pied sur la ligne. On rappelle qu'en rugby, la ligne ne fait pas partie
du terrain.
Donc, tu mets le pied sur la ligne, tu as une touche. Voilà. En foot, ce n'est pas le
mais
cas.
Mais surtout la communication
voilà,
des arbitres.
C'était...
Et évidemment que là, il y a souvent des micros qui sont entendus.
Voilà. Et tu sais pourquoi. Et il t'explique et il te dit, le mec a mis. Et alors, si en plus tu le vois à l'écran...
Il y a beaucoup de transparence voilà. Dans la communication.
Voilà, tu râles, mais au moins c'est fait. Et le sentiment qu'on a, mais à mon avis, c'est dû à des personnalités... le directeur de l'arbitrage, Gauthier,
quand il
était entraîneur, moi qui suis un ancien, je l'ai connu arbitre.
Non, il y a quand il était arbitre de Ligue 1.
On le surnommait l'adjudant-chef.
Ouais. Une de plus.
C'est-à-dire, tu peux rien lui dire. Mmh. Et dès que tu dis un mot, tu casses une jambe, il te met un jaune.
Ouais.
Et tu contestes une décision,
c'est
tu
pas
prends
discutable.
Un jaune pareil. Ah. Voilà. Et c'est quelqu'un d'assez... Voilà, et qui défend coûte que coûte. La direction de l'arbitrage, elle défend des décisions qui, des fois, sont... je parlais du carton rouge qu'a pris Monaco... Moi, le mec qui me défend le rouge, c'est qu'il n'est pas de bonne foi.
Ne peut-on pas justement donner plus de responsabilités ? Parce que finalement, on masque les responsabilités d'un arbitre central
en
lui faisant justement comprendre que s'il ne suit pas les indications qu'on lui fait comprendre, que voilà.
Voilà, et je regardais donc, je parle de l'équipe télé, je pense que... Nombreux sont nos auditeurs qui le regardent ou qui écoutent RMC.
J'ai l'impression que RMC et l'équipe sont sur un même cheval de bataille.
Voilà. Et là-dessus,
qui nous est pas favorable.
On te fait remarquer que la Ligue 1 est la ligue où il y a le plus de cartons jaunes et le plus de cartons rouges. C'est toi qui cartonne le plus. Et quand tu regardes les cartons, des fois, c'est des contestations.
Ça reste relatif, mais il y a beaucoup de. Justement.
Oui,
de...
le joueur, il râle parce qu'il a raté un truc, ça, il s'énerve, il va mettre un coup de pied dans le ballon. Voilà, il prend un jaune. Alors, je regarde le championnat anglais sur Canal+.
Ouais.
En Angleterre, tu t'énerves, il te rappelle, il te dit attention, mais il ne te met pas un jaune. Quoi.
Et oui, et puis ça s'arrête là, généralement, dans le comportement.
Et le mec, il fait attention à la fois d'après.
Ben oui.
Et donc, si tu veux. Tu as un arbitrage qui est très pointilleux.
Mmh.
Et surtout, on n'a jamais tort. Il y a des situations où on te dit « Ah non, l'arbitre a bien jugé. » Quand tu regardes les comptes rendus, sur 20 comptes rendus de décision arbitrale, il y en a 19,5 qui étaient bonnes. Voilà. Alors que là... Alors je redis, Lyon-Paris, je suis ni pro-lyonnais ni pro-parisien, surtout pas.
Mais tu as constaté de visu.
Je suis très content de ne pas avoir été arbitre, parce que sur les trois situations, c'est trois situations de merde.
Ah oui.
Où tu peux siffler, c'est vraiment des trucs galères.
On en revient justement à une interprétation dans une décision arbitrale.
Voilà, et en plus... Le problème qu'il y a eu, à mon avis,
ne pas le remettre en cause,
c'est que
forcément...
les trois décisions, elles sont pour Paris contre Lyon.
Ouais. Ouais. Voilà.
Alors, donc évidemment.
On peut. Après, ça laisse planer.
Un gros doute.
Oui.
Alors qu'en fait, je le redis, le mec, j'aurais pas aimé mettre à sa place parce que c'est des décisions très complexes.
J'entends ton propos totalement.
Voilà. Et là, le fait que les arbitres soient notés. Que
s'ils
font appel à la VAR ou s'ils sont déjugés, on a beau te dire non, ça fait perdre des points. Que s'il y a des polémiques, des problèmes, ça fait perdre des points.
Ben, on en est encore là, justement.
Voilà.
Le manque d'initiative des arbitres à présent, ne serait-ce que bien souvent l'arbitre central ne suit pas son arbitre assistant et attend qu'une décision soit prise
par
la VAR.
Il y a des fois, le mec il siffle pas. Et il attend et il se couvre. Et donc, c'est un problème et ça explique. Alors, je le dis pour râler, évidemment. Hein. Nous, on avait été très lourdement avec Benny Benassia et avec Pablo Longoria sanctionnés l'année dernière pour des contestations d'arbitrage.
Voilà, une attitude générale du staff.
Voilà, Benassia, il avait pris 3 mois et Longoria, 6 mois, donne 3 fermes pour avoir créé. Critiquer durement l'arbitrage.
Je crois que les médias foot TV, justement, sont encore dans cette position, dans ces commentaires-là.
Sauf que le président de Lille, qui est un multirécidiviste dans les critiques, il a pris un match pour avoir...
Il y avait deux poids, deux mesures.
Voilà, pour avoir défoncé un arbitre.
Ouais.
Alors, pour avoir vu les images, il n'est pas complètement tort, hein, parce que c'est des décisions complexes.
Ouais.
Mais enfin, en tout cas, il a défaussé arbitrage inacceptable. Il avait hurlé comme un fou.
On se souvient justement ce scénario, de cet événement.
Voilà, et ce n'est pas la commission de discipline qui l'a sanctionné. C'est la commission de la Ligue, je ne sais pas trop laquelle.
Ouais, la commission spéciale de la Ligue.
Voilà, qui lui a mis un match, alors que Benatia lui en a pris 6, quoi. Voilà.
Encore une fois, deux poids, deux mesures.
Et donc, c'est sûr que ce genre d'erreur, elle contribue à créer des problèmes. Parce que moi, je n'ai pas particulièrement d'amis à Lyon, et mais je comprends le supporter lyonnais qui voit trois décisions scabreuses et douteuses, ben oui. Et les trois contre lui et en faveur de Paris Saint-Germain. Hein. Le Qatar, ouais. C'est eux qui commandent le foot français. C'est, voilà.
Ben, en même temps, vu les réunions qui se déroulent à l'insu de certains d'autres clubs, ben, ils l'ont su après coup.
Oui. Je rappelle pour nos auditeurs qu'il y a eu une polémique, parce qu'il y a cinq clubs, le Paris Football
Club. Toujours d'actualité.
Football Club. Hein.
Oui.
Précisons bien l'OM, l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et le Racing Club de Lens.
Qui ont fait
une lettre pour dire qu'il y avait une réunion sur l'arbitrage, justement, où ils n'étaient même pas au courant qu'elle avait lieu.
Ils n'ont pas été d'être invités. Ouais.
Dans laquelle il y avait le président de Lille, qui est président de l'association des présidents de Ligue 1. Mmh. Et il y avait le directeur général de l'association, qui se trouve être le directeur général du Paris Saint-Germain.
Voilà.
Et eux, ils y étaient à la réunion. Mmh. Évidemment, ils savaient qu'elle avait lieu, puisqu'ils y étaient. Et toi, tu ne savais même pas qu'elle avait lieu. Tu as su après qu'il y avait une réunion. Alors, on a beau t'expliquer qu'il n'y a pas eu de décision prise, tu es mis à l'écart. Et c'est le genre de truc qui crée un climat.
Mais nous en parlions précédemment, il est vrai que là, pourquoi être en dehors de la transparence, puisqu'il n'y a pas de décision qui vont être prises, autant convier tous les protagonistes.
Oui, d'ailleurs, j'avais vu, ça me rappelle, il y a quelques semaines, un truc, c'est sur Foot Mercato, je crois. Mmh. C'est un truc sur les réseaux sociaux qui fait beaucoup de trucs sur le championnat.
Ouais.
Et où il donnait compte rendu du rapport de la commission d'arbitrage qui disait que les décisions contestées, il y en avait 4 ou 5 ou 6, elles étaient toutes bonnes. Et les mecs, il a écrit, le journaliste, il a mis à la surprise générale, ils ont considéré que toutes les décisions étaient bonnes. Si tu as rien de mieux à dire, ou ne serait-ce que de dire,
voilà. Je me souviens d'un film culte qui n'a pas trop fait long feu, mais c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Voilà. Malheureusement, c'était d'actualité en l'occurrence.
Oui, voilà, les mecs, ils parlent, toujours pour dire que l'arbitre a été bon. Et les supporters, ils sont persuadés que non. Et tu crées toi-même tu crées toi-même le problème, quoi.
C'est ça, des polémiques finalement qui n'ont pas lieu d'être et qui se retrouvent justement d'actualité.
On l'a vu cette année en Espagne quand le Real Madrid se plaint de l'arbitrage parce qu'il y a une action litigieuse à leur défaveur. Alors qu'ils volent tout le monde.
Ah ouais, là c'était quand même fort de café. Ouais.
Moi j'ai vu le match de Ligue des Champions Liverpool-Real Madrid. Ouais. Mm-hmm. Liverpool leur a marché dessus.
Oh, oui.
Et il y a un tir, je ne sais plus de qui, que Tchouaméni contre de la main. Volontairement. Hein.
Effectivement.
Il ne fait pas exprès. L'arbitre va voir le ralenti au VAR, où on lui signale que le mec, il détourne le ballon de la main, et il revient disant « Non, c'est accidentel, la main, elle est presque collée au corps, alors que la main, elle n'est pas collée au corps.
» Là, c'était quand même presque hallucinant
et
comme situation.
Là, tu te dis, si c'est de l'autre côté, c'est quoi la décision, quoi. Voilà, parce que le Real qui se plaint des arbitres, c'est comique, quoi.
Ah oh oui, voilà. Carrément. Mais là, on est dans le tragicomique dans beaucoup de circonstances.
Donc, ils se flinguent tout seul, en fait, parce que tu as... Et puis, avec un arbitrage qui est tatillon, on va revenir au match contre Brest de samedi dernier.
Oui.
De Zerbi, il y a eu une action. Bon, on menait 2-0, le match était tranquille, on le contrôlait. Et il y a eu une action où le mec, les Brestois, c'est une équipe engagée, les mecs, ils filent.
Oui.
Et De Zerbi a râlé après un tacle ou un coup qui a été mis. Enfin, et il s'est pris un jaune.
Il n'arrive pas à garder son sang-froid tout de même.
Le problème, c'est qu'il est rentré sur le terrain.
Oui, il est resté dans sa zone.
Il était dans sa zone, il gueulait. Ouais. Et le quatrième arbitre a appelé, il est venu lui mettre un jaune. En fait, quand tu regardes les images, il y a faute. Il y a un coup et le mec, il ne sort pas les... Parce que le match a été correct. Brett, c'est une
d'autant
équipe,
plus, voilà, c'est une sans bonne être équipe, véhément, voilà. De Zerbi a juste réagi dans sa zone.
Voilà, c'est une équipe sympa où j'espère qu'ils se maintiendront parce que c'est une bonne équipe.
Enfin, les Pirates n'ont pas fait le déplacement à Marseille.
Ils sont en difficulté, mais ça joue physique, c'est-à-dire ça rentre dedans.
Oui.
Et des fois, ça laisse traîner. C'est pas forcément méchant, mais je veux dire, Il y a pas mal de jeunes qui ne sont pas toujours très expérimentés, qui ont tendance à laisser un peu traîner les semelles.
Ça, c'est l'excuse valable.
Voilà, et donc, quand tu es dominé, que tu prends les vagues, comme ouais. c'était le cas contre nous, on a eu 70 et quelques pourcents de possession, les mecs, ils filent. Et donc, l'entraîneur, il gueule parce qu'il y a eu une faute devant lui.
Oui.
Tu n'es pas obligé, un arbitre intelligent, il dit monsieur,
mais
calmez-vous.
D'autant plus, voilà. Vu le climat du match, il n'y a pas eu de véhémence particulière de Roberto.
Il
n'y
a pas eu
d'incident,
il n'y a pas eu le match est très correct. Le cow-boy, il est venu sortir une carton. Quoi. Ça va, garçon, laisse tomber, quoi, je veux dire. Tu vois. Et c'est ce genre de carton sur les entraîneurs, les trucs comme
ce
ça.
Ce genre de comportement arbitral, oui, oui. Justement, qui est plus que gênant.
Et... Voilà, et en plus, sur le côté théâtral, je viens, je te brandis le carton, on dit on va la machin.
C'est moi le patron.
Et c'est stupide, parce que le match, il n'est pas... Là où il faut sanctionner, c'est quand ça risque de dégénérer, ça commence à filer et à rendre. Là, tu peux dire, je mets des cartons
ce
pour calmer.
Ce sont des situations qui peuvent faire déraper un match.
Complet.
Voir le
match
débordé. Ouais.
Mais toi, c'est toi qui le fais déraper en t'énervant et en mettant... On le dit des fois, moi je l'ai vu plusieurs fois, y compris en faveur de l'OM. Hein. Tu mets des cartons jaunes sur la première faute en début de, au bout de 10 minutes de jeu, un défenseur, ça prend facilement, enfin, ça peut prendre des cartons. Après, tu vas te retrouver à expulser un gars. L'expulsion d'Emerson à Lisbonne, le premier carton qu'il prend, c'est une main involontaire.
Ouais.
Le ballon qui va à la main et pas la main qui va au ballon. Il lui met un jaune stupide et un quart d'heure après, il fait une simulation.
On peut le rappeler, c'est... Non, mais voilà, d'autant plus que le premier carton n'était pas justifié.
Voilà,
me semblait injuste.
Le second, il est justifié au sens du règlement. Mais avant d'expulser un joueur et de savoir que tu affaiblis son équipe, surtout en première mi-temps, quoi, il y a tout le match derrière, il reste une mi-temps entière, réfléchis, quoi, je veux dire. Et quand tu mets des cartons, alors un entraîneur, c'est moins grave, tu expulses l'entraîneur,
oui.
Il n'est pas sur le terrain. Mais des fois, tu as des fautes qui sont des cartons pour des trucs qui ne sont pas des trucs dangereux. Bah, puis des fois, tu vois des tacles plus que limite, où là, le carton ne sort pas. Quoi. Voilà.
C'est ça.
Et donc, tu parce qu'après, quand tu
as... Et les observateurs de football que nous sommes, et l'ensemble des spectateurs, comprennent vite des situations qui peuvent dégénérer.
Oui, voilà.
Et des deux poids, deux mesures, j'en reviens à ce propos.
Voilà, et c'est sûr que si des fois tu fais... Tu peux être amené à laisser traîner parce que tu as dit « je ne vais pas sortir un rouge », mais à ce moment-là, tu laisses filer, l'autre il va rendre, et si l'autre tu mets un carton, c'est injuste, tu as mis à l'un, tu n'as pas mis à l'autre. Tu te mets toi-même, et c'est ce que font souvent les arbitres français, tu te mets toi-même dans la merde.
Ben ouais.
Voilà. On se rappelle la polémique, on va revenir à l'OM, sur M. Le Texier, qui normalement était le meilleur arbitre d'Europe et de France.
Ben, paraît-il, il officie de manière formidable, mais sauf quand il...
Et qui avait expulsé Harit pour un pied haut, alors qu'en fait, il veut contrôler le ballon, et c'est Marquinhos qui essaie de couper et qui prend un vague coup.
Erreur de jugement qui était...
Voilà, il a fini le match, il a sans problème, il a joué le match d'après, il lui met en rouge.
Ouais.
Intégrité physique du joueur, et qui un mois après n'expulse pas Singo, qui avait mis un coup de pied dans la tronche de
et qui lui avait ouvert la tête carrément. Ouais.
Que le mec, il a fini à l'hôpital. Quoi. Il a d'ailleurs toujours les cicatrices des crampons dans la gueule. Et le mec, il a même pas eu un carton.
Voilà.
C'est des trucs.
Un exemple que je viens de citer, qui malheureusement...
Et après, quand le mec, il te dit, j'ai mis en rouge parce que mon travail, c'est de protéger l'intégrité physique des joueurs, tu lui dis que c'est un pitre. Quoi. Voilà. Et c'est sûr que...
C'est le commentateur du pays de l'absurdie.
Voilà, complet. Quoi.
Monsieur le taxi.
Et là, bon, on va quand même revenir au match de Brest avant de clore l'émission.
Avant de clore l'émission, nous l'avons remporté 3-0, même si ce ne fut pas une partie de plaisir.
Ça n'a pas été un match flamboyant, mais ça a été très sérieux.
Oui, ouais.
Bon, soyons honnêtes, le gardien de Brest, on peut lui dire, on peut lui envoyer des fleurs.
Merci beaucoup.
Parce que le coup franc de Gomez est bien tiré.
Ça m'a donné justement des velléités de tireur de coup franc quand j'ai vu ça. Ouais.
Voilà, c'est les gars en peau de pêche, là, la savonnette.
Ah ouais.
Il a voulu, je pense qu'il a voulu prendre le ballon.
Ouais.
Et la frappe était quand même puissante, elle lui a échappé, elle est allée dans le petit
filet.
C'est
le moins que l'on puisse dire.
Voilà.
Ouais.
C'est une bonne, ça fait un zéro, oui. Et à partir de là, tu as continué, tu as déroulé. Deuxième but, troisième en seconde mi-temps, où tu aurais pu alourdir, hein, tu aurais pu facile, facilement.
Malgré ce, nous sommes quand même la meilleure attaque de ce championnat, c'est important de le souligner. Mais bon... Aubameyang est resté pratiquement jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il marque ce but tant attendu.
Voilà.
Avec deux, trois occasions un petit peu foirées en première période, par exemple.
Ah oui, il a une occasion à 0-0 au bout de 10 minutes. Là. Une belle passe de Greenwood, il est seul devant le gardien, il fait un lob, mais il croise trop, il le met en deux. Alors que Aubameyang en forme, il le met 9,99 fois sur 100.
C'est évident.
Voilà, là, il a été un peu... Il a aussi un centre qu'il a repris, qu'il a tué une mouette,
comme on dit
à Marseille.
Ça nous rappelle des souvenirs.
Voilà, mais alors qu'un garçon de sa qualité, tu sens que physiquement, la blessure de Gouiri fait que...
Oui, il manque cruel de technique autour de lui pour trouver la profondeur d'Aubameyang. Voilà.
Et donc, il est en difficulté physiquement parce qu'entre Ahmed Junior Traoré, qui est absent, et Gouiri qui est blessé...
Ouais, qui apporte un soutien offensif qui n'est pas indéniable.
Et Nadir, qui a eu son malaise et qui était indisponible, tu manquais d'attaquant, de remplaçant, et le mec, il a fait beaucoup de matchs. Et ça se sent, tu le vois, qu'il est moins percutant que d'habitude. Alors, il travaille, il bosse pour l'équipe, mais des fois, on sait qu'un buteur, c'est le dixième de seconde pour frapper, pour reprendre. Voilà,
Donc, pour le mental, il est excellent.
Qu'il ait mis un but, c'est très bon.
Absolument, que De Zerbi ait un petit peu attendu, justement, avant de le sortir, qu'il score.
Il a sorti après son but, ce qui lui a valu de sortir sous les applaudissements de tout le stade.
J'ai senti Greenwood à sa sortie qui a précédé celle de Aubameyang un petit peu chafoué.
Pourquoi c'est
moi qui sors
et pas lui.
Eh oui.
Mais à la différence, c'est qu'Aubameyang joue avec l'équipe du Gabon, dont il est le capitaine, il joue tous les matchs. Et Greenwood n'est pas sélectionné, donc il joue.
Oui,
il joue pas pendant les trêves, il joue pas. Et donc ça compte. Et voilà.
Important.
En plus, il avait été laissé au repos en prévision du match de l'Atalante à Auxerre. Donc, alors qu'Aubameyang avait joué à Auxerre, même s'il est sorti à l'heure de jeu. Et donc, c'est vrai que les deux absences en attaque font que tu es obligé de tirer sur la corde avec Pierre-Emerick Aubameyang et que c'est problématique parce que à 36 ans, le gars...
J'espère que le déplacement avec le Gabon ne seront pas justement trop préjudiciables.
Oui, normalement, c'est des matchs amicaux. Donc,
ouais, mais bon.
Espérons que son sélectionneur le laissera sur le banc et le reposera.
Oh que oui.
Parce qu'il ne faudrait pas qu'il se pète. Parce que là, tu joues Newcastle et tu vas jouer à l'Union Saint-Gilloise avec Robinhova seul attaquant.
Donc, touchons du bois, nous n'en sommes pas là, ça n'arrivera pas.
Rappelons que si on espère récupérer Medina fin novembre, Amine Gouiri, c'est fin janvier qui revient.
Eh oui, pas avant.
Une opération de l'épaule avec opération, anesthésie et tout.
Bon, sans sortir ma boutade hebdomadaire, je dirais, n'oublions pas que nous avons Nil Mopé qui a réintégré le banc de touche. Bon, là, c'était au-delà de la boutade. Ouais.
Je pense pas. De toute façon, ça fait 6 mois qu'il... Bon, il a joué en réserve, mais tu le mets en Ligue 1.
Un tir au but en réserve qui a permis
qui a permis une victoire.
Une victoire
tu le fais rentrer en Ligue 1, le niveau n'est pas le même. Et en Ligue des Champions, il n'est pas inscrit. Donc, il ne peut pas jouer.
Au-delà de ça.
Donc, à la limite, autant lancer les jeunes Mbadi et compagnie.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est les mecs en pleine bourre. Ça m'étonnerait qu'ils rejouent.
Non, mais qui. Je suis content de cette jeunesse justement qui profite de quelques minutes de jeu par-ci par-là et évidemment que ça va être bénéfique pour la suite.
Oui, parce que il m'a dit, il est rentré, il a couru, il s'est battu Et c'est bien, il apprend, mais il est encore un peu juste, un peu jeune pour être balancé comme ça.
Effectivement, mais se préparer pour la suite, voilà. Bien entendu.
Et Mopé, à part si De Zerbi veut lui donner un quart d'heure pour lui faire un remerciement de ce fait que le mec
travaille. De son comportement.
Voilà, de son comportement. Je pense qu'il partira au mercato, c'est mieux pour tout le
monde.
Non,
mais là, il n'y a pas de cadeau, il y a juste de l'intelligence et de la...
Voilà.
Soyons pragmatiques.
Voilà.
Voilà. Parce que maintenant, en attendant la suite de la compétition, donc évidemment, ça repart le 21 novembre. Donc voilà, il reste encore à Nice.
Une équipe malade, normalement, qui a des problèmes.
Ouais.
Et espérons qu'on soit à 100% et qu'on puisse aller prendre les points. Parce que...
Qu'on soit outillé, je dirais, par nos joueurs.
Les deux dernières journées de décembre, on va à Lille et on reçoit Monaco.
Ça va encore s'enchaîner sur des matchs, je dirais, pas capitaux, mais l'ensemble des matchs le sont.
On reçoit Toulouse après Newcastle au Vélodrome. Et après, on va à Lille, on va à l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions.
Et tout s'enchaîne comme
d'habitude. Et on reçoit Monaco au Vélodrome.
Ouais.
Alors, Monaco aura joué en Ligue des Champions aussi.
En effet.
Donc, au niveau fatigue, ça devrait compenser. Mais enfin, c'est pas des matchs faciles, je veux dire.
Voilà.
Même si Monaco, ils ont pris 4-1 contre Lens dans des conditions un peu compliquées.
Oui.
Il faudrait pas qu'ils marquent les premiers au Vélodrome et qu'ils soient... Voilà, quoi. Il faudra... Ça sera pas un match gagné d'avance.
Aucun non.
Voilà.
Aucun léger.
Voilà. Et donc, espérons qu'on retrouve de la forme physique, parce que c'est vrai, je le redis, contre Brest, on a gagné 3-0, donc les gens vont te dire, c'est très bien, on n'a pas été extraordinaire.
Non, on n'a pas été fulgurant.
Par contre, grâce à Vermeeren, qui a fait un très gros match.
Je l'ai trouvé excellent, dans la mesure où j'ai beaucoup d'affection pour lui, footballistiquement parlant. Et en même temps, je vois en lui, d'ailleurs, nous en avons parlé, il a été sélectionné avec l'équipe belge Espoir.
Espoir, oui.
Il reste très jeune. Ouais.
Voilà, il a pas 21.
Je vois en lui très grande qualité.
Voilà, lui et Højbjerg ont fait une très gros match au milieu. Mmh. Ils ont été très bons, mais on avait le ballon, on n'a jamais été vraiment en danger, la défense a fait taf.
Non.
Mais je veux dire, Brest aussi, par rapport à l'équipe il y a l'année dernière, il y a deux ans, c'est pas la même équipe.
Ils
ont perdu beaucoup de monde,
nettement
plus faible. Et c'est une équipe courageuse, qui joue pas mal, mais qui manque de qualité.
Oui.
Tu as un ou deux joueurs, tu as Jorge qui est toujours pénible en pointe, parce que encore faut-il jouer avec lui.
C'est toujours pareil, faut-il le toucher.
Il était isolé, il n'a pas eu beaucoup de ballons.
Il était bien pris par notre défense en même temps.
Par notre défense, par Aguerd de Pavard. Tu as Aguerd et Pavard en passe sur le dos, c'est pas un cadeau.
Même si Aguerd a encore des difficultés physiques.
Oui, il a un problème. Il a tenu quand même 79 minutes.
Pavard, quelques difficultés peut-être techniques, on peut le dire ainsi.
Pour revenir, parce qu'il a eu une période difficile.
Ouais. Ah, ça arrive.
Mais
c'est
vrai que Brest,
quand
tu regardes bien, ils ont eu une grosse occasion en début où Rouilly te fait un bel arrêt.
Merci encore.
Oui, Geronimo, parce que là aussi, c'est une occasion où il te sauve et tout. Et après, ils ont été en grande difficulté offensive. Oui. Ils n'ont pas créé grand-chose. Donc, ce n'est pas non plus un match flamboyant.
Nous avons réussi à gérer ce match. Malgré ce, on peut dégager ses points positifs.
Voilà, on aurait pu en mettre 4 ou 5. Mais on en a
soigné
mis 3, mais bon,
on
a soigné le goal à Vorage, Greenwood a marqué, Aubameyang a marqué, c'est bon pour le mental, Angel Gomez a marqué, c'est bon pour le moral.
Même surtout le mien.
D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il avait fait un match correct.
Oui, en plus de cela.
À certains matchs, ou à Auxerre, ou contre l'Atalante, où il n'a pas été bon, là, je l'ai trouvé correct. L'avoir mis un but, ça l'a peut-être mis en confiance.
Probablement.
Voilà. Parce que c'est quand même un mec qui a du ballon, qui est un bon joueur.
On n'attend pas de lui qu'il nous marque au début, mais justement, qu'au milieu, il apporte justement une touche technique, donner de bons ballons.
Et mine de rien, il a mis le but
apte à, cela,
à Auxerre, 1-0.
Aussi.
Là, il a marqué contre Brest le premier but, celui qui déclenche tout. Donc mentalement, ça peut être une libération, ça peut être une très bonne chose pour lui.
Ah, totalement.
Et c'est bien pour nous, parce ouais, ouais. que ça nous permet d'avoir un joueur sur qui on peut compter. Quoi.
Et donc, on va en avoir besoin.
Le match de Brest a été un match intéressant, ouais. on l'a bien joué, on n'a pas été en difficulté. Mais ne fantasmons pas, on n'a pas été extraordinaire non plus.
Récupérons des forces et de l'allant. Voilà. Et bon, ben, place à Nice, donc, dans...
Le 21, vendredi, la semaine prochaine. Mm-hmm. Parce qu'on a besoin
aussi de
personnel pour pouvoir faire retourner.
Oh que oui. Oh
ne
que
serait-ce
oui.
que de rentrer à 20 minutes de la fin, ben oui. de reposer un peu les gars, de faire jouer des gars qui ont du rythme. Et quand il te manque 8 bonhommes, vous ne m'ôterez pas l'idée que contre l'Atalante, hein, le fait que ça nous ait pénalisé, quand tu n'as pas pu faire rentrer des remplaçants frais qui amenaient quelque chose, parce qu'il n'y avait que des jeunes inexpérimentés.
C'est le moins que l'on puisse dire.
Voilà.
Bon, maintenant, allons de l'avant et voyons le bon, le positif que nous, on va dégager dans ce prochain match. Et allons de l'avant, nous sommes avant le calendrier de l'avant qui n'est pas le même.
Voilà, oui, avant le calendrier de l'avant. Et donc là, le match de Nice vendredi 21, et évidemment, on vous fera le compte rendu mardi.
Ayant quelque peu débordé le temps additionnel,
oui.
on va vous saluer à toutes et à tous. Merci encore, merci beaucoup.
Et à bientôt.
Au revoir.